C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme.
Talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? Talking to me?
Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello! Come here!
Bonjour à toutes et à tous. Il est 14h passé de quelques minutes. On a eu des petits problèmes techniques. Et c'est l'heure de Ciné 100 qui revient après 2 semaines d'interruption. Je sais qu'on vous a manqué. Bienvenue dans notre salle obscure radiophonique pour une séance dédiée au cinéma, à tous les cinémas. Bonjour Patrick.
Bonjour Anne-Lise.
Vous allez bien?
Je vais très bien. Oui, je me suis un peu ennuyé quand même. J'ai regardé des films.
C'est bien. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Anne-Lise.
Vous allez bien?
Très bien, dis donc, je ne vous ai pas vu, moi, à Cannes.
Oh si, mais je suis toujours très très discrète.
Oui, remarquez, c'est normal, j'y étais pas alors.
Voilà, mais...
Bonjour Patrick.
Bonjour Jean-Jacques, je ne vous ai pas vu à Cannes.
Qu'est-ce que vous avez grandi?
Oui, je sais, j'ai pris 2,5 cm, j'ai des talonnettes maintenant.
Oui. Ah, ça me rappelle quelqu'un.
Oui,
pour l'épisode numéro 28, c'est une toile blanche qui va être garnie par un invité qui va nous livrer ses préférences filmiques et certains films qui l'ont ému, interpellé, fait rire, fait pleurer. Bref, une petite partie de son panthéon cinématographique. Et tout commence par un petit jingle.
Oh, c'est magnifique! Oh, c'est magnifique! Oh, ça valait le détour!
Cet invité Patrick, nous vous laissons le présenter.
Eh bien, je vais me coltiner cette tâche avec grand plaisir.
Oh, ben sympathique.
Il s'appelle. Cet invité s'appelle Raphaël Montfort. Il se trouve que Raphaël Montfort, je le connais depuis un an à peu près, depuis mai 2025, et il a la particularité d'être élève de troisième année à l'école 3IS à Bègles.
Vous lui dire et... bonjour quand même d'abord, non? Peut-être.
Non, mais je dis bonjour à la fin. Raphaël m'a dirigé magnifiquement dans un film magnifique qui s'appelle Les bords de l'âme et donc j'avais très envie que ce soit un élève qui fasse la clôture de nos émissions parce que c'est l'avenir du cinéma et donc c'est un grand cinéaste puisqu'il mesure 1m87, lui et moi, c'est un peu Laurel et Hardy, donc voilà. Mais je suis ravi qu'il soit avec nous, donc bonjour Raphaël.
Bonjour Raphaël.
Bonjour à tous, Raphaël. Merci de me recevoir.
Comment allez-vous?
Merci pour cette belle présentation.
Bon, je vous en prie, c'est tout Raphaël, plaisir pour nous.
On vous a demandé l'impossible, en fait.
Oui,
c'est l'impossible, vrai. C'est celui de choisir dans votre filmographie personnelle 3 films, et seulement 3 films. Je sais que c'est dur quand même, non? Mais ce sont des films qui sont importants pour diverses raisons que vous allez nous exposer. Et le premier de ces films, je vous laisse en donner le titre.
Oui, parce que c'est en anglais puis que vous ne maîtrisez pas l'anglais.
Exactement.
Oui, il ne maîtrise que l'allemand.
À moi de donner le titre?
Oui, s'il vous plaît.
Alors, il s'agit de There Will Be Blood, j'imagine.
Oui.
C'est cela.
Très bien.
Et alors, de quoi parle ce film? C'est la question qu'on se pose, parce que je crois qu'on ne l'a pas vu, Patrick, vous ne l'avez pas vu.
Je ne l'ai absolument pas vu, je ne veux jamais de cinéma coréen.
D'accord, et Anne-Lise?
Non.
Alors, Raphaël, revenons sérieusement au sujet. Oui. Le sujet du film, justement.
Le sujet du film, c'est un film de Paul Thomas Anderson, qui dure 2h30, je crois, et qui traite de la ruée vers l'or. La ruée vers le pétrole et d'un certain Daniel Plainview, si je ne me trompe pas, qui va chercher à s'enrichir au maximum au profit de trouver du pétrole et détruire un peu ses relations. Voilà, ça traite aussi beaucoup de la morale et du fait qu'il va se détruire petit à petit feu à travers la corruption, à travers ses relations interpersonnelles, qu'il va perdre et à travers surtout sa morale qui va partir.
Donc voilà. On est dans
très
le drame.
Très mal résumé, mais...
Nous sommes dans le drame, là.
On est totalement dans le drame. On est dans
dans
un film à suspense, drame social, il y a beaucoup d'enjeux. C'est un film très très beau que tu devrais voir, Patrick.
Et ça se passe où, alors? Parce que c'est la ruée vers l'or, vers le pétrole, mais dans quelle direction?
En Amérique, ça se passe en Amérique. C'est une grande histoire américaine.
C'est la deuxième construction de l'Amérique, en fait.
Exactement. La première.
Il y a eu le Far West, et puis après, il y a eu la mécanisation.
C'est la suite d'un western, alors, si je comprends.
C'est une sorte de western pour moi, oui. C'est très, très, très bien aimé, parce que c'est exactement la question que je voulais poser. Moi, c'est... Alors, on peut parler d'un western, mais d'un western moderne tout de même. On y trouve tous les thèmes qui sont chers au western, les grands espaces, la quête du bien, l'adversité. Et moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce film ? Est-ce que c'est la qualité de la réalisation, la qualité de l'interprétation, surtout celle de Daniel Day-Lewis d'ailleurs, ou justement ces grands espaces perdus à l'infini ?
Plusieurs questions, là.
Plusieurs questions. La question est chargée.
Il n'y a qu'un seul point d'interrogation. Non, il y en a plusieurs.
Moi, je pense que c'est quand même la thématique et le sujet qui m'ont porté, qui m'ont intéressé, qui me passionne, je pense. Donc, la morale humaine, encore une fois. Et vraiment, pendant 2h30, observer ce personnage, au final, perdre la tête et vraiment se concentrer purement sur s'enrichir. Et vraiment voir à quel point, jusqu'à où est-ce qu'on est prêt à aller. Contre nos propres valeurs, contre les gens autour de nous, contre les personnes qui nous entourent. Donc voilà, c'est vraiment cette question de morale, moi, qui m'a interpellé. Et puis après, forcément, c'est une réalisation magnifique, puis des performances qui sont incroyables. Et
c'est le réalisateur, c'est Anderson.
Oui.
Et c'est celui-ci qui avait réalisé il y a quelques années Punch Drunk Love, je crois.
Oui,
tout à fait. Qui était un film dont on a parlé.
C'était un film un peu complexe, non, tant que je m'en souvienne.
Je ne l'ai pas vu, donc...
Oui, je confirme.
La question, c'est est-ce que ce film dont on parle aujourd'hui est aussi complexe que le pouvait l'être Punch Drunk Love?
Non.
À vos souhaits.
Non, je pense. Il me paraît pas compliqué. J'ai vu Punch Drunk Love il y a quand même un petit moment, donc je me rappelle pas exactement de la complexité sur ce point-là. Au niveau de narratif, c'était ça?
Oui.
Non, ça reste quand même assez linéaire... puis dans l'an, c'est une construction assez facile, je pense qu'il reste même tout public. Hein. Donc,
Là, c'est pareil, il y a un début, un milieu, une fin. Il n'y a pas de flashback, il n'y a pas de séquence qui nous re-raconte l'histoire sous l'aune d'un autre personnage.
Les acteurs, c'est...
Daniel Day-Lewis, qui est prodigieux.
Il a eu un Golden Globe, je crois.
Il a eu un Oscar.
Et il y a d'autres acteurs connus dans le film?
On a Paul, j'ai plus son nom de famille. Paul, qui joue Eli dans le film, qui est un peu l'antagoniste par rapport à Daniel.
On va trouver.
Là, tout de suite, on va le trouver.
Mais oui, en tout cas, c'est l'antagoniste qui s'oppose. Bah, donc, on a forcément la thématique du business, de l'argent, du capitalisme. Et puis, on a aussi la thématique de la religion qui est assez importante et qui va venir vraiment être le gros frein, le gros obstacle
face
à notre protagoniste.
Et bien, du coup, pour plutôt qu'en parler, on va écouter aussi la bande-annonce de ce film-là.
Mesdames et messieurs, vous me croirez sur parole si je vous dis que je suis pétrolier. J'ai traversé la moitié de notre état pour venir ici inspecter ces terres. J'ai l'esprit de famille. Voici mon fils et mon partenaire HW Plainview. Vous deux, vous êtes une vraie entreprise familiale. Et vous arrivez un peu tard.
Alors, t'as trouvé quoi ?
J'ai un certain nombre de projets prometteurs. J'ai de nombreux puits produisant des milliers de barils par jour. Voilà pourquoi je suis prêt à m'engager à commencer le forage et à le financer. Vous avez ma parole.
Pourquoi c'est pas encore à moi?
Je suis prêt à vous offrir $3,700.
Non. Il y a du pétrole ici. Ça a sûrement de la valeur.
Combien tu voudrais, Ellie? Mon fils est guérisseur. Il est habité par le Saint-Esprit. Il a une église. Oh.
Je t'entraînerai dans les lampes et tu y seras maudit pour l'éternité!
On fait un pipeline, un marché avec une yonole. On gagnera enfin notre vie, on s'en mettra plein les poches, on touchera notre dû.
Attention!
On a un océan de pétrole sous les pieds. Personne ne peut l'exploiter à part moi.
On vous offre $1,000,000 pour le titre.
Quand comptez-vous nous payer, Daniel?
Plus j'observe les gens et moins j'ai envie de les aimer.
Oui, alors on a compris un peu que ce qui était important dans ce film-là aussi, c'est la présence du pétrole. Et en lisant les petits résumés à droite et à gauche, je m'aperçois que les scènes de forage ressemblent parfois à des scènes de guerre ou d'enfer, en fait. Et Raphaël, la question que je me pose, c'est est-ce que le pétrole, finalement, apporte le progrès ou la destruction ?
Oh !
Pam, pam, pam.
Oh, elle est bien, celle-là.
Elle est pas mal.
Oh, elle est superbe.
Elle est excellente.
Et la réponse va être à la hauteur.
La réponse va être excellente aussi.
Ni l'un ni l'autre.
Ni l'un ni l'autre. En soi, c'est un... Je pense que c'est un sujet... Sûr. Enfin, un élément assez paradoxal, mais j'ai envie de dire un peu comme toute croissance, quoi. Ouais, forcément, ça apporte du positif, mais aussi beaucoup de négatif. Donc, pour le protagoniste, bon, bah...
Ça apporte du négatif maintenant à l'orée de ce qu'on a vu précédemment, mais à l'époque, ça apportait plus peut-être de progrès qu'autre chose. Sauf peut-être dans la destruction, alors des rapports humains, mais pas de la nature et de l'écologie.
C'est-à-dire pas d'impact négatif
au niveau à l'époque, je pense qu'on n'avait pas la conscience de cet apport négatif que pouvait avoir les énergies fossiles, comme le pétrole, par exemple.
S'est jeté dessus. Oui. Mais c'est sûr que, comme vous l'avez dit, niveau interpersonnel, les relations sont assez détruites. Et puis, donc, c'est des scènes qui ressemblent effectivement à des scènes d'action, des scènes de guerre. Quelque chose d'assez gore, même le titre le traduit très bien, hein. Il y aura du sang. Donc c'est des scènes où ça gicle, où ça tâche, où c'est des choses assez dégueulasses. Donc moi je trouve ça plutôt fort et plutôt parlant dans l'apport de destruction que représente le pétrole.
Parce que j'ai lu en fait qu'à l'époque, le film se passe à la fin du 19e ou début du 20e siècle, par là.
Ouais.
Et les fruits, les puits de forage produisaient à l'époque 100 000 barils de pétrole par jour.
Okay.
Ce qui était énorme, n'est-ce pas, patron ?
Pour l'époque, oui, tout à fait. Alors que maintenant, on est à 1 million et quelques de barils de Brent au Qatar.
Oui, bien sûr. Y a des bonnes références dans ce film aussi, j'ai vu, parce que une grande partie se déroule dans un petit village qui s'appelle Marfa. Et vous savez qu'il y a eu deux autres films qui ont été tournés dans ce village-là ?
Les sorcières de Marfa.
Non.
C'est vrai.
Marfa fait du ski, non ?
Je crois qu'il y a eu No Country for Old Men.
Exactement. No Country for Old Men des frères Cohen.
Des frères Cohen. Oui.
Et aussi, un film des années 50, Géant, le film avec James Dean.
Oui.
Donc des bonnes références.
Et Rock Hudson.
Okay.
Oui, peut-être, oui.
Bah oui, je peux vous le dire.
Vous avez tourné dedans.
C'était moi le deuxième géant.
Bon, très bien. Enfin voilà, c'était simplement pour... une connivence de films de qualité, quoi, sur cette...
Ouais, bah c'est un bon terrain de jeu.
Voilà.
Si on y va par là, il y a beaucoup de films qui ont été tournés à Paris aussi. Hein ? Bon.
C'est tout ce que vous avez à dire.
Voilà. Merci Patrick pour cette intervention.
Je vous en prie, Andy, vous êtes très positif, ça me plaît bien.
Écoutez, dans la bande originale, on retrouve le troisième mouvement du concerto pour violon en ré majeur de Brahms, interprété par Anne-Sophie Mutter et le Berliner Philharmoniker dirigé par Herbert von Karajan. En voici un extrait.
Thank you.
Moi, Raphaël, je voulais...
Patrick, je voulais juste vous couper. Ça me fait plaisir. Et pour dire qu'on a retrouvé le nom, le patronyme du second acteur qu'on cherchait. Sur
oui, je l'ai donné tout à l'heure, c'est Paul Dano.
Vous l'avez donné ?
Oui.
D'accord.
Il fallait écouter. C'est pas grave. Paf ! T'as vu comme j'ai mis... moi, j'avais une question subsidiaire à vous poser, non, mon cher Raphaël. Tout à l'heure, dans la présentation que j'ai faite de vous, je disais que vous étiez un étudiant en cinéma. Et alors, ma question, c'est la suivante. Est-ce que, dans les trois films que vous nous présentez aujourd'hui, dont vous avez envie de parler, est-ce qu'ils ont eu une influence particulière dans votre propre thématique cinématographique, c'est-à-dire dans les films que vous avez déjà réalisés ou dans ceux que vous avez envie de réaliser plus tard ?
Oui, bonne question.
Je vous en prie.
Oui. Choisir trois films, c'était assez dur. Donc, de manière assez narcissique, j'ai choisi des films qui forcément m'ont impacté aussi dans mes réalisations. Mm-hmm. Donc, There Will Be Blood, forcément, c'est cette thématique et ce sujet, donc, la morale humaine, qui m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est un sujet qui va longtemps me suivre et longtemps m'accompagner, je l'espère.
Oui, tant mieux.
Et puis, donc là, j'ai pu réaliser mon court-métrage de fin d'études récemment. Donc, c'est justement une thématique que j'ai repris autour du monde du vin, cette fois-ci.
Nexora, donc, c'est ça.
Exactement.
Je suis bien renseigné. Hein.
Et cette question de traitement chimique, voilà, question des valeurs. Assez intéressante. Et puis dans les films qui vont suivre aussi, on aura une thématique plus autour du fantastique, je pense qu'on va en parler bientôt. Donc oui.
Je vais vous étonner, après le premier film, il va y en avoir un deuxième.
Sans blague.
Et je vous laisse le soir, Raphaël, de nous donner son titre aussi, de nous en faire un petit résumé.
Je choisis le Atlantique de Mathy Diop. Petit résumé, j'espère qu'il sera un peu plus intéressant.
Réalisatrice franco-sénégalaise ou...
Franco-sénégalaise, comme mes soins, comme moi.
D'accord.
C'est un film qui traite donc d'une jeunesse disparue, qui parle un peu de cette quête d'aller travailler ailleurs, cette quête de s'immigrer pour gagner de l'argent en dehors du pays, et qui ramène du coup aussi une thématique un peu fantastique, donc le monde des djinns, des fantômes. Au Sénégal, qui est du coup beaucoup ancré dans ses croyances animistes et aussi dans la religion musulmane. Et voilà. Je l'ai pas résumé du coup. Mais c'est un film qui parle de Eda, qui est une jeune femme qui est promise à un homme et qui en aime un autre. Mais cet homme-là va fuir le pays pour se diriger vers l'Espagne et essayer de traverser l'Atlantique, d'où le titre.
D'où le titre.
Mais tout va pas se passer comme prévu.
Et je crois que Mathy Diop avait déjà réalisé un court-métrage il y a quelques années sur la traversée.
La même thématique s'appelait Atlantics,
oui.
Et pas Atlantique.
Tout à fait.
Qui est un court-métrage qui reprend un peu la même histoire.
Sur la traversée de la Méditerranée, non, ouais. Il me semble.
Oui.
Enfin, sur l'Exode.
Sur l'exode, de toute façon, sur le départ, pour fuir son pays, oui, peut-être pour un ailleurs meilleur.
Oui.
Justement, quand on parle du personnage d'Ada, à vos yeux, comment le personnage et pourquoi Ada représente-t-elle l'émancipation féminine ? Qu'est-ce qui fait que ce personnage-là a ce côté dans ce film, à vos yeux ?
À mes yeux Donc effectivement, je pense que les premières thématiques, c'est effectivement voilà, c'est les différences de classe sociale, cette quête vers l'ailleurs. Et puis on a aussi, donc comme je dis, au final, on est vraiment centré sur ce personnage et sur un groupe de jeunes femmes dont tous les maris, partenaires, amants ont quitté le Sénégal pour traverser l'Atlantique. Donc on suit surtout ce groupe et qui vont continuer à vivre. Je pense que voilà, l'émancipation féminine pour moi s'incarne beaucoup dans le fait qu'on va persister à continuer à aller voir, essayer de faire ce deuil, essayer de vivre. Et il est peut-être là aussi le défi. Donc, parce qu'on on s'attarde souvent sur les gens qui quittent le pays pour aller ailleurs, mais pas assez sur les gens qui y restent et les conséquences que ça peut y emmener. Donc je pense que l'émancipation féminine, elle passe aussi par là, par ce personnage qui va aussi essayer de vivre malgré beaucoup de traditions, beaucoup de croyances, beaucoup de choses qui sont assez strictes aussi sur sa condition. Comme j'ai pu en parler un peu avant, par exemple, elle a été promise à un homme à la base. Donc on a aussi toute cette sous-intrigue où elle va aussi s'affranchir de cette condition et puis finir avec un autre homme, sans trop en dire non plus. Donc voilà, je pense que c'est surtout à travers le fait qu'on voit ce groupe de jeunes femmes vivre et...
Et puis la présence de ces fantômes aussi, qui sont un peu récurrents dans le film, qui est très présent dans la religion animiste, en fait. Mais qui ne sont pas des fantômes diffus, un peu comme ça, qui ont vraiment leur place dans la société. Il arrivait même, d'après ce qu'on m'a rapporté, que leur place dans les fêtes de village était réservée. Ils étaient présents, ils participaient. C'est important, ça aussi, ce côté-là.
Ouais, complètement. Je vais pas trop rentrer dedans par peur de faire d'erreur, mais c'est sûr que ce sont des croyances qui sont très 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 fortes au Sénégal. Moi, je sais que ma grand-mère me raconte encore des récits dessus. Et puis même quand je m'y rends au Sénégal, donc elle habite dans le quartier de Wakam, qui est encore vachement baigné dans toutes ces croyances, dans toute cette ambiance très 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 fantastique, très surréelle pour nous.
Pour nous, oui, mais pour eux, c'est tout à fait normal.
Oui, enfin, je dis pour nous, pour moi. Oui. J'ai perdu carrément le...
Vous êtes devenu un fantôme.
Et je suis devenu... Voilà, donc c'est...
Mais je le vois à vos yeux jaunes.
En 2019, justement, il y a Mati Diop, elle était interviewée sur France Culture dans l'émission La Grande Table, et elle revenait sur son film et sa présence à Cannes.
D'être à cet endroit-là, alors que qu'aucun... compromis vraiment n'a été fait autant sur l'écriture du scénario avec mon co-scénariste Olivier Demangel que le choix de mes productrices dont c'était le premier long métrage, Fatima Al-Kadiri dont c'était la première bande son, les acteurs qui n'avaient jamais joué. C'est vrai que quand j'ai réalisé qu'on était là alors que c'était notre premier long à tous et qu'en se choisissant alors qu'on n'avait pas encore réalisé de long, c'était quand même un vrai pari. Enfin bref, on aurait pu faire des choix plus sécurisants et on a vraiment pris pas mal de risques et tout en proposant un récit et un film accessible, parce que c'était vraiment le véritable souhait de proposer un film qui soit une fable universelle, une fable politique. Je suis quand même restée très très proche de mon langage, enfin de ce que je développe dans mes courts-métrages depuis quelques années, et c'est formidable en fait d'être accepté, reconnu, tel qu'on est, comme le projet premier, primordial, était de consacrer un film à une certaine jeunesse disparue en mer. Je me suis aussitôt méfiée du risque d'enfermer toute une jeunesse dans ce destin-là, dans cet appel-là. D'où l'importance de raconter l'histoire des disparus à travers les vivants, de témoigner, de tenir compte à la fois de... non seulement de la jeunesse vivante, mais surtout de sa complexité, de sa diversité, de ses contradictions. Et je me souviens très clairement m'être dit, je ne peux pas proposer un film aujourd'hui en Afrique, à Dakar, qui serait un énième constat pessimiste, triste et purement mélancolique. L'idée, c'est vraiment que les vivants portent en eux ces disparus, portent en eux ces morts, mais qui est la question d'une transcendance, de quelque chose qui se dépasse. En fait, j'ai filmé Ada et j'ai voulu la filmer comme une survivante, comme quelqu'un qui survit à cette perte, à cette disparition, et que ça lui permette vraiment de se reconquérir elle-même.
Alors, vous avez choisi Atlantique comme étant sur votre podium de films préférés, cher Raphaël. Alors, je ne l'ai pas vu, pour tout vous dire, on ne va pas se cacher les choses. Mais j'ai cru lire quelque part qu'une dose de surnaturel, de mystique, la manière dont les invisibles, les ensevelis, ressurgissent pour demander des comptes et retrouver une incarnation au sens propre du terme, dans l'ultime étreinte. Est-ce que ces choses-là ont eu une influence sur votre propre cinéma ?
Oui, forcément. Je pense que du coup, voilà, ça m'amène à un autre court-métrage que j'ai pu développer, qui parle aussi de ces thématiques, qui parle du monde des djinns, mais enfin, de manière plus universelle, des esprits, donc des fantômes, comme elle les appelle, qui m'emmène du coup à cette thématique aussi de la mort, cette question de est-ce que c'est une fin ou un passage en soi. Donc,
c'est un passage simplement, comme disait Alain Delon, quoi.
Exactement. Donc oui, beaucoup. Après, est-ce que c'est ce film, encore une fois, ou plus cet héritage sénégalais directement ? Il y a un peu de tout. Mais
le film dont vous parlez est issu aussi de l'héritage sénégalais dont vous pouvez vous revendiquer de toute façon.
Ouais, exactement.
Suleiman's Theme est un titre de la bande originale du film, composé et interprété par Fatima Al-Kadiri. Canary.
Être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape.
Eh bien, sur 91.3 au deux radio, bien entendu.
Alors, on parlait de vos différents films, on en a évoqué deux, mais vous avez sûrement une filmographie très large. Et quel est le premier film dont vous vous souvenez et qui vous a marqué?
Premier film, premier long métrage, compliqué. Je sais pas si je vais vraiment m'en souvenir. À moins que ça soit une transition pour le troisième film.
Non, point du tout.
Très bien. Premier film, aucune idée. Je pense que, bon, forcément, les dessins animés, on s'en souvient beaucoup. Je regardais beaucoup Booba, d'où mon surnom, Babou.
Ah, d'accord.
À part ça, un premier long métrage.
Ou alors le premier, celui qui vous a peut-être marqué quand vous étiez ado, un
souvenir de cinéma ou de télé.
Souvenir de cinéma, oui, ou de télé, quelque chose qui peut-être.
Souvenir. Je pense que mon père m'a forcé à regarder beaucoup de films vieux. Ça a été un traumatisme. Je pense qu'on a regardé beaucoup de.
Qu'est-ce que vous appelez voilà, oui, un film vieux pour vous,
c'est. Pour moi, c'est de la préhistoire.
De Funès, ça c'est.
Ah, c'était archaïque pour moi.
Ça l'est, hein.
J'ai commencé à m'intéresser au cinéma assez tardivement, quand même, je pense. Moi, c'était à la base beaucoup la technique, donc faire, ouais. Créer. Donc, je pense que je regardais énormément de contenu sur la création, sur même chose, encore une fois, la technique. Et j'ai commencé à regarder tardivement des films, donc c'était beaucoup mon père qui nous mettait devant la télé. Et on a regardé beaucoup de sa culture.
Est-ce qu'il y a un film qui vous a marqué, qui vous a amené, vous vous êtes dit, c'est ça que je veux faire, parce que, ou alors c'est le fait d'avoir regardé autant de films avec votre père qui fait que vous vous êtes dit, le cinéma, ça peut être chouette, c'est quelque chose dans lequel je voudrais travailler.
Ouais, je pense que c'est un tout. Encore une fois, je ne m'attarderai pas sur un film en particulier qui ait marqué quoi que ce soit. Quitte à ce que ça soit même plutôt les behind the scenes, quoi. Ouais. Après avoir regardé un film, on regarde les coulisses, et c'est plutôt ça qui m'a marqué. C'est plutôt la création, l'excitation d'un plateau, toute la préparation à partir d'une idée jusqu'à des dessins, jusqu'à des repérages. Enfin voilà, moi c'est plutôt ça qui m'a vraiment toujours accompagné.
C'est la manière dont on fait un film.
Ouais, voilà, la création de créer.
Très bien.
Très bien. Et alors votre troisième film. Pour votre sélection d'aujourd'hui, quel est-il ?
Je nomme Azur et Asmar. J'ai choisi ce film qui est un dessin animé de Michel Ousleau, qui m'a justement beaucoup marqué, et très tôt pour le coup. Donc c'est peut-être un des premiers souvenirs. Je crois que j'ai regardé Le Roi et l'Oiseau, Azur et Asmar,
Était
dans ces eaux-là. Et c'est un film qui m'a marqué. J'enchaîne avec la description.
Allons-y. Oh ben, ça, avec plaisir.
Allez, je me sens à l'aise. C'est un dessin animé qui parle de deux jeunes garçons qui viennent de deux mondes différents, mais qui grandissent ensemble sous la même mère nourrice. Et quand ils sont petits, on leur racontait beaucoup une histoire qui est celle de la fée des djinns. Une fée qui serait mystérieusement enfermée sur un autre continent et qu'il faudrait délivrer pour pouvoir l'épouser, pour pouvoir je ne sais plus quoi. Voilà, en tout cas, c'est une quête un peu vers cette fée des djinns, vers cette délivrance que suivent ces deux garçons.
On sent quand même beaucoup d'influence africaine, oui. À juste titre. Et moi, j'avais une question par rapport à ce film d'animation. Je voulais vous demander si on pouvait dépasser les différences culturelles. Finalement, ce n'est pas la question que je vais vous poser, parce que je pense qu'on peut y arriver. Mais si on y arrive, comment peut-on y arriver à dépasser ces différences culturelles-là ?
C'est une bonne question, peut-être un peu trop large pour un jeune comme moi. Mais je pense que effectivement, comme vous l'avez dit, on peut y arriver. C'est un film qui démontre aussi les deux côtés. Typiquement, ces deux garçons qui grandissent ensemble sans jamais se poser cette question. Ça montre très bien cet effort et que c'est possible, voilà, de mêler tout ça. On a d'autres personnages comme le personnage de Crapou, si c'est bien son prénom. Qui vient bien démontrer l'inverse, qui lui vit depuis des dizaines d'années à l'étranger, sur un autre continent que le sien, et puis qui n'a pas du tout progressé, qui n'a pas du tout évolué sur sa manière de penser. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Comment ? C'est à travers l'acceptance, à travers la communication, à travers la découverte, à travers cette innocence. Je pense que, et puis c'est aussi pour ça que c'est intéressant, parce que c'est un film qui suit deux jeunes enfants. Oui. Donc y a ces deux thématiques qui sont entremêlées, qui sont intrinsèquement...
Et on a souvent qualifié le cinéma d'Oslo comme un cinéma d'enfants pour enfants. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça ? Lui, il n'est pas d'accord, je crois que...
Je pense que c'est un cinéma qui parle à tout le monde, et c'est ouais. sa force. Il a, donc, comme vous l'avez dit, donc, beaucoup inspiré de l'Afrique. Donc, Michel Oslo qui a aussi réalisé Kirikou,
ah bah oui.
son grand succès.
Le grand Kirikou, le petit Kirikou.
Et qui, encore une fois, une histoire qui se prête à tout le monde. Et, oui. et c'est ça qui en fait sa force. C'est grâce à ça qu'on arrive à communiquer oui. ces thématiques et ces questions de culture. Donc.
Et ce qui est intéressant, j'ai noté qu'en fait, Oslo... a refusé de traduire, de mettre des sous-titres sur les parties qui étaient parlées en arabe.
C'est vrai, c'est vrai. Ce qui est une belle expérience ouais. au visionnage, puisqu'on est comme le personnage donc, qui ne parle pas cette langue, un des deux garçons qui ne comprend pas l'arabe, et donc on est dans cette même quête à essayer de comprendre, à essayer de déchiffrer ouais. les expressions, les visages, les sourires. Donc c'est effectivement un choix intéressant.
On va écouter la bande-annonce du film pour voir de quoi on parle.
Il était une fois Azur et Asmar, deux enfants bercés par les mêmes légendes.
Et un beau prince viendra avec les trois clés magiques. Il délivrera la fée des djinns et il trouvera l'amour.
Quand je serai grand, je délivrerai la fée des djinns.
Non, c'est moi qui l'épouserai.
T'as pas le droit.
Il était une fois deux enfants qui s'aimaient comme deux frères.
D'abord, ton pays, c'est ici. Tu y es né.
Arrêtez. Lequel est Azur ? Toi, tu restes ici.
Tu es un grand maintenant. Que veux-tu faire de ta vie ?
Je veux aller dans le pays, de l'autre côté de la mer. Et je veux délivrer la fée des djinns.
Je m'appelle Crapou.
Et toi ? Azur.
Si tu me portes sur tes épaules, je te guiderai et je parlerai pour toi.
Le film parle, vous le disiez, de tolérance entre les cultures, de tolérance entre les religions, entre les hommes et les femmes. Et c'est vrai que souvent dans le cinéma, c'est toujours un peu difficile de parler de tolérance comme ça assez facilement. Est-ce que pour vous, par rapport à Azur et Asmar, est-ce que c'est la féerie présente qui allège un peu le sujet de ces différences-là ?
Je pense, comme ça a été dit, donc c'est un cinéma qui s'adresse à tout le monde. Et je pense que ça parle du fait que c'est un dessin animé, donc ça embrasse bien ce genre, avec ces images de synthèse. Et effectivement, je pense que c'est ce côté fable, ce côté conte, côté féerie, fantastique aussi, encore une fois, surréel, qui permet d'alléger le sujet, forcément, et d'en faire quelque chose de joyeux, d'en faire quelque chose de simple, alors qu'au final, ça porte beaucoup de thématiques qui peuvent être très lourdes.
Tout à fait. Un peu comme dans tout le cinéma, en fait, de Michel Oslo. C'est-à-dire qu'il y a cette féerie Kirikou, on en parle aussi. C'est cette féerie-là qui allège aussi le sujet, qui fait porter un peu tous ces messages près d'une toute une génération.
Complètement.
Vous parliez de technique tout à l'heure, vous étiez intéressé par le côté technique du cinéma. J'ai lu que dans ce film Azur et Asmar, il y a 1300 plans qui ont été réalisés. Et la préparation a pris 2 ans avant, en amont du tournage de ces différents plans-là. Est-ce que je me trompe ou le film est en 3D? Visiblement, je me trompe.
Je crois pas.
J'en ai aucune idée.
Il me semble que le film est en 3D. C'est une première pour Michel Oslo aussi. Enfin, on va vérifier, quoi. Mais 1300 plans, c'est un travail énorme.
En tout cas, c'est effectivement des images de synthèse, donc un travail numérique. Je crois que c'est peut-être une de ses premières fois sur ce principe-là. Après, est-ce que c'était en 3D ou en 2D? Je n'ai plus cette
Mais Patrick
info.
Est en train de rechercher ça sur
Je suis en train de rechercher, absolument.
Et d'ici
oui.
mardi prochain, il aura trouvé.
Je vous donnerai la réponse par téléphone.
Alors, en attendant, on va écouter de la musique. Tiens. La musique de style arabe que l'on peut entendre dans la scène où Azur mange dans le jardin de sa nourrice Jenan, ainsi que la berceuse qui suit, ont été composées par Gabriel Yared. C'est vraiment une berceuse, Patrick.
Ah oui, c'est une vraie berceuse.
Oui, oui.
Bon.
Ben oui. Hein.
Alors, j'ai une question à poser, là, non?
Non, pas vous. Tout,
c'est moi. Il y a une... Raphaël...
Ça s'appelle de la censure.
Vous faites des études de réalisateur, de réalisation. Alors, la question est simple. Y a-t-il un réalisateur ou une réalisatrice qui domine votre filmographie? Et si c'est le cas, pourquoi?
Effectivement, donc je suis en écriture et réalisation. Je termine mes études là bientôt. Un réalisateur qui domine.
Oui.
Je pense Paul Thomas Anderson, comme on l'a dit, a beaucoup de choses qui m'intéressent dans sa réalisation. C'est des films que j'aurais aimé avoir fait, par exemple. Je pense aussi à Denis Villeneuve, qui est aussi un très grand cinéaste qui m'a beaucoup marqué, à travers beaucoup de films, même ses courts-métrages, ses premières créations, qui sont aussi très intéressantes, et puis surtout son cinéma de science-fiction, qui est aussi un genre que j'apprécie beaucoup. Mais je pourrais en citer beaucoup.
Oui,
aussi
c'est
les frères Cohen, qui m'ont aussi beaucoup
Tarantino.
Marqué. Tarantino, oui.
Oui.
J'aime beaucoup ces films.
Almodovar.
Almodovar, j'en ai pas vu.
Et Groucho Marx
ça. Non.
Non, déjà.
Laurel et Hardy.
Non, bon voilà, en tout cas. J'aurais...
Et une réalisatrice, non?
Une réalisatrice, bah Mati Diop. J'ai pas non plus eu l'occasion de voir beaucoup d'autres de ses films, mais Céline Sciamma aussi, ce qui n'est pas du tout un style j'attaquerai en réalisation, mais j'aime aussi beaucoup sa plume, son écriture.
Et alors, évidemment, on fait des études pour être diplômé, mais après, est-ce qu'il y a des projets qui sont...
Après, on a beaucoup de projets. Moi, l'idée, c'est de continuer à écrire, continuer à réaliser au possible, et puis dans un futur très proche, essayer de travailler en mise en scène. Donc voilà, dans des équipes d'assistants à la réalisation, de script, tout ce qui peut toucher encore une fois à la création.
Sur des longs métrages, des courts métrages.
Toucher à tout. Ouais. Ouais,
tout ce qui se présente.
Le bonheur. Ouais. Oui, mais forcément long métrage, plutôt fiction. Voilà, si vous entendez cette annonce, c'est un appel à l'aide.
D'accord. Bah, écoutez, comme on est écouté beaucoup. Hein,
oui, on est écouté. Il y a toute sa classe là, qui va déjà nous écouter aujourd'hui. Donc on
crève les plafonds de l'audience.
Ouais. Et est-ce que vous êtes plutôt film en salle ou DVD?
Film en salle. Film en salle, DVD, encore une fois, c'est de la préhistoire. Non, je rigole.
Non, mais ou plateforme, voilà. Quoi.
Ça s'appelle un vent.
Plutôt en salle. Je pense que c'est une expérience qui n'a rien à voir. Enfin, on peut vivre un même film de manière tellement différente en salle ou chez soi.
Êtes d'accord avec nous, c'est que chaque fois qu'on voit un film, on le voit aussi différemment. On peut
c'est
le voir
différemment.
Oui, c'est ça. Pardon.
À chaque visionnage?
Oui.
Ouais. En fonction de l'âge qu'on a aussi, de notre sens, notre vécu.
Ouais,
ça, notre vision du cinéma change.
Oui, complètement.
Eh bien, voilà. Ciné 100, c'est fini.
Ah non.
Ah si, je vous assure. Ah bon, enfin, pour aujourd'hui. Hein.
Ah bon, d'accord.
Alors, il nous reste à remercier notre invité. Merci, Raphaël. C'était extrêmement agréable.
Merci infiniment.
Très, très documenté, avec de très, très belles réponses, pleines de sagesse et de bonté humaine. Alors,
vous êtes payé ou quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Mais c'est mon ami, donc j'ai envie de tourner avec lui encore. Donc, pour les autres. Vous pouvez réécouter cet épisode ainsi que tous les autres en podcast. C'est vieux le podcast aussi?
Non, c'est bon.
Sur le site de O2 Radio. Mardi prochain, nous retrouverons des chanteurs et des chanteuses qui, le temps d'un film, ou plusieurs, sont devenus acteurs et actrices, et réciproquement.
Ce sera à 14h sur O2 Radio 91.3, bien entendu.
Et en attendant, il se passe quoi, Charles? En attendant, on se quitte avec la perle musicale du jour, dénichée par notre ami Jean-Jacques.
Michel Denisot.
Michel Denisot, oui. Quelle est la chanson?
Écoutez, il y a un groupe phare des années 80 qui s'appelait Cyclope.
Cyclope.
Ouais,
ou
d'accord.
Cyclope, non.
D'accord.
Rien à voir avec les cigarettes. Cyclope. Mm-hmm. Donc, il a été fondé par les frères Ostry et par Gérard Cousin. Cyclope, c'est du rock nerveux. C'est toujours, hein, parce qu'il existe toujours ce groupe.
D'accord.
Chanté en français à l'énergie punk. Voilà, Cyclope est le premier groupe français à être sorti en CD, figurez-vous. Et au Pérou, son premier album a été disque d'or avec des concerts devant 40 000 personnes.
Diantre.
Et dans son premier album, le groupe reprenait l'hymne à l'amour d'Édith Piaf. On va l'écouter.
Allez, oui. À mardi prochain, oui. Et en attendant,
bon vent à tous. Le ciel bleu, sous nous peut s'effondrer. Et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe, si tu m'aimes, je me fous. Matin.